Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Si on vous surnomme le Saint-Bernard, que vous avez une fâcheuse tendance à nouer des liens, pour parfois de mauvaises raisons, à vous enfermer dans une situation trop lourde à porter ou à vous occuper des autres au point de vous oublier, alors peut-être souffrez-vous du syndrome du sauveur. Ce besoin est viscéral, aider autrui est votre manière de respirer. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce besoin d'aider l'autre à tout prix ? Peut-être de se sauver soi-même. Mon invité, psychanalyste et coach, s'est plongé dans les rouages du couple sauveur-sauvé pour mieux en comprendre les racines. Qui pour sauver le sauveur ? C'est la question qu'elle pose dans son tout dernier livre, « La tragédie des sauveurs » ou « Le besoin ardent d'être aimé » aux éditions Marabout. Je suis ravie de recevoir pour la première fois dans Métamorphose Hélène Vecchiali. Bonjour.
Bonjour Anne.
Alors pourquoi ce livre sur ce syndrome du sauveur ? Est-ce que vous-même, vous avez été dans cette posture ? Vous avez écrit précédemment sur le narcissisme, sur les manipulateurs. Est-ce que c'est connexe déjà comme sujet ? Et pourquoi le sauveur en particulier ?
Alors, le sauveur en particulier, parce que j'ai été sauveuse compulsive, mais je me suis soignée, je suis guérie. Donc, j'ai le recul de maintenant suffisant et j'avais envie d'écrire sur ce thème. Et j'ai été très étonnée parce que quand j'ai parlé de ce thème à mon entourage, et puis aujourd'hui quand j'en parle aux journalistes, aux médias, tout le monde me dit « mais c'est tout à fait moi ». Donc je finis par me demander s'il y a des sauvés quelque part, parce que tout le monde, ça fait écho vraiment à tout le monde. Donc il y a un lien aussi avec tous mes autres livres, bien évidemment, hein, à chaque fois.
Alors d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez très bien vous retrouver soit dans le rôle du sauvé, soit du sauveur, soit avoir autour de vous des personnes dans votre entourage familial, amical, au boulot, qui sont dans ce profil-là. Donc restez avec nous, même si vous n'êtes pas complètement dans le profil du sauveur, parce que peut-être ça concerne des personnes autour de vous. Alors, ce syndrome du sauveur, comment est-ce qu'on peut le définir ? Déjà, peut-être pour commencer, vous avez dit guérir, mais on ne parle pas de maladie. Est-ce que c'est un trouble ou véritablement un syndrome ? Peut-être quelle serait la différence entre les deux ?
Oh ben je crois qu'on peut parler d'un trouble, on peut parler d'une addiction, mais ce n'est pas une maladie, bien sûr. Hein. Quand j'ai dit guérir, c'était ironique vis-à-vis de moi-même.
Oui.
Mais je crois qu'on peut parler effectivement d'une addiction, c'est-à-dire de cette nécessité vraiment viscérale d'aller se sacrifier pour l'autre, Lorsque ça se passe pour sauver un noyé ou quand on est chirurgien cardiaque, bien sûr, ça se comprend. Quand c'est un sauvetage psychologique qui dure longtemps, et là, effectivement, on est dans le thème des sauveurs.
Et on va en parler évidemment longuement. Ça vient d'où, ce thème du sauveur, dans le champ de la psychologie ?
Eh bien, je crois que une des premières tragédies, peut-être la première tragédie que je nomme, c'est le fait que le sauveur sait sauver. Il sait vraiment comment faire pour sauver. Et pourquoi c'est une tragédie ? Eh bien, parce que ça veut dire qu'il a commencé souvent très petit. Il est tombé dans la marmite. Alors, ça a été pour sauver un parent qui était dépressif, ou un père qui était alcoolique, ou une sœur qui était handicapée, ou des choses moindres, le sentiment d'une famille un peu tristounette. Et puis, ça peut être aussi, je l'ai découvert en interviewant des gens, un sapeur-pompier par exemple, c'est aussi des enfants qui sont dans des familles de sauveurs, c'est-à-dire un père et une mère qui consacrent leur vie à aller dans des associations, à aider les gens qui sont pauvres, à aller au Resto du Cœur, enfin qui sont vraiment tournés vers les autres.
Vraiment intéressant. Pourquoi vous en parlez comme une tragédie finalement ? C'est un mot fort, hein, la tragédie.
Oui. C'est une tragédie parce que mon sous-titre, Le besoin ardent d'être aimé, montre que c'est une tragédie parce que, donc, dans un premier temps, je vous disais, c'est une tragédie parce que ça veut dire que petit, le sauveur a été dans l'obligation de jouer un rôle. Et d'ailleurs, je cite l'enfant, c'est des enfants qui sont parentalisés, hein. Donc, je cite l'enfant thérapeute, l'enfant symptôme, l'enfant paratonnerre, l'enfant soleil, hein, celui qui va passer son temps à faire de l'humour et à plaisanter pour égayer sa famille.
Le bonheur de tout le monde.
Voilà, donc cette première tragédie. Et j'en cite 11 autres. C'est-à-dire que, au moins, la deuxième tragédie la plus importante, c'est qu'il fait ça pour être aimé. Or, il ne récolte jamais d'amour. Jamais. Il récolte de l'admiration, il récolte de la reconnaissance, de la gratitude, mais de l'amour, non.
C'est là où est la tragédie, en fait, l'aspect tragique.
Oui, c'est l'aspect tragique. Hein. Et les autres tragédies, ça peut être aussi que dans cette position sauveur-sauvé, le sauveur est dans une position un peu dominante. Et par conséquent, les rôles sont fixés dès le départ. Et si par hasard, tout d'un coup, lui se dit « bah, j'aimerais bien souffler un peu et puis aide-moi », eh bien, ça ne va pas fonctionner. Je donne comme exemple un ambulancier qui, tout d'un coup, en aurait marre de conduire ses patients et puis qui va s'arrêter et dire à son patient « bah, prends le volant, j'en peux plus ». Ça n'existe pas, ça s'est jamais vu. Donc c'est terminé pour le sauveur si jamais il veut avoir un peu de compassion et de soutien. C'est fini pour lui.
Alors si on devait un petit peu déterminer un portrait robot de ce sauveur, à quoi peut-il ressembler comme ça ? Pour voir si on peut se reconnaître soi-même, si on n'a pas encore conscience d'être, oui, ou qu'on peut reconnaître quelqu'un de son entourage.
Eh bien c'est quelqu'un qui se dévoue. Vraiment, complètement. Ce sont des belles personnes. Hein. Je parle de la tragédie des sauveurs, mais tout mon livre est empreint de tendresse et de bienveillance pour ces personnes-là, parce que justement, elles sont vraiment dans cette capacité à sauver. Et si on pouvait décrire un sauveur, peut-être je décrirais une stratégie que les gens peuvent reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a le choix du sauver. La personne va reconnaître dans un groupe, va reconnaître une personne qui ne va pas bien et qui a besoin d'être aidée. Et puis, il va y avoir le harponnage, c'est-à-dire, je raconte par exemple, lors d'un dîner, une jeune femme qui dit « je viens d'être licenciée, je suis triste, je ne m'en sors pas, c'est difficile ». Et là, en face, il y a une sauveuse, on va l'appeler Caroline, je ne me souviens plus le prénom que j'ai pu lui donner à ce moment-là, qui va tout de suite lui dire, alors qu'elle ne la connaît pas, qu'elle ne l'a jamais vue, qui va lui dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux parler ? Est-ce que tu as une DRH qui te soutient ? Et moi, je suis là, je peux t'aider. Et toute l'assemblée, moi, c'est une histoire qui m'est arrivée, pas à moi, mais j'ai assisté justement histoire, à un sauvetage, et dont tous les gens qui sont autour de la table sont admiratifs et voient cette personne qui est tout de suite prête à se dévouer pour une inconnue, et pour la soutenir et pour lui apporter toute son aide. Et au moment où le repas est terminé, eh bien, à la sortie, elle va aller la voir, lui demander son numéro de téléphone. Comme elle prend un taxi, elle lui propose de monter dans le taxi. La personne sauvée, future sauvée, dit « Ben non, j'habite à l'autre bout de Paris, ça fait rien, je te raccompagne. » Et à partir de là, voilà, il y a ce harponnage. Et puis, il va y avoir une lune de miel. C'est-à-dire que, comme je le disais, le sauveur s'est sauvé. Et donc là, il y a des appels téléphoniques, des invitations à déjeuner, lui donner des noms de gens qui vont pouvoir l'aider, lui porter à manger le soir si elle se retrouve à plus avoir faim. Enfin, vraiment quelque chose d'important. Et puis, tout d'un coup, il va y avoir un franchissement de la ligne rouge, c'est-à-dire que ça va être trop. Elle va en faire trop.
Et, oui, c'est un envahissement.
Voilà, et là, c'est un envahissement. Et c'est la différence entre proposer son aide et puis imposer son aide. Et à partir de là, les choses risquent de se compliquer. Et c'est donc tout ce que je décris là est déjà un petit peu tragique. Et la tragédie de fin, comme toutes les tragédies, ça se termine mal. On va passer du duo au duel. Soit le sauveur, comme c'est son identité, va avoir du mal à laisser le sauvé guérir et prendre son envol. Soit le sauvé va ne plus pouvoir et va mordre la main qui l'a nourri pendant tant de temps.
Dans cet exemple, c'est vrai qu'on voit très bien la scène se dérouler. On a peut-être déjà assisté à ce genre de sauvetage. Dans la vie, il y a aussi parfois plus de gradation dans ces couples-là, ou peut-être même plus de finesse. Là, c'est vrai que le harponnage, il est clair et direct. En plus, c'est une soirée, elle devient d'un seul coup sa thérapeute, elle la poursuit, limite, elle la harcèle pour l'aider.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a quand même des typologies, vous avez vu, de sauveurs un peu différents ? Même parfois en fonction de certaines situations, c'est-à-dire qu'il va plutôt essayer de sauver dans un certain type de situation et moins dans d'autres, où le sauveur est un sauveur, no matter what, comme diraient les Américains, quoi qu'il arrive.
Oui, je pense que c'est quoi qu'il arrive, mais très certainement, les sauveurs vont se sentir plus à l'aise lorsque ça va leur rappeler les sauvetages pratiqués dans leur enfance. C'est-à-dire que si c'est un parent alcoolique, eh bien, il va se sentir peut-être plus adapté à sauver une personne alcoolique. Si c'est quelqu'un de dépressif, il va peut-être se sentir plus efficace avec quelqu'un de dépressif. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il y a cette capacité-là qui fait que tout le monde va pouvoir bénéficier de son soutien, de son aide.
Est-ce qu'il est forcément dans l'excès, dans ce harponnage et dans le fait d'insister, ou est-ce qu'on peut être un plus petit sauveur ?
Oui, ça peut être de façon plus subtile, mais ce qui se passe pour le sauveur, c'est que ça va vraiment le nourrir. C'est-à-dire qu'il va avoir en tête constamment la personne à sauver et ça va lui servir de réparation, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bien évidemment, il fait à autrui ce qu'il aurait aimé qu'on lui fasse. Et donc, le sauveur va avoir en tête constamment de se dire « Tiens, ce soir, je vais appeler. Tiens, demain, je vais envoyer un SMS. » Ou « Tiens, là, j'ai une pause déjeuner, je vais envoyer un petit texto. » Enfin, ou un mail. Il y a vraiment ce goût du soin constant. Et donc, on comprend que le sauvé, il est alimenté de façon continue par une super maman. Donc, lui aussi, il va devenir addict et on est dans une codépendance.
Est-ce qu'on voit ça dans la systémie familiale, c'est-à-dire parents-enfants, des parents qui sauvent aussi leurs enfants et inversement ?
Alors que les parents sauvent leurs enfants, ça me paraît dans la logique des choses. En revanche, que les enfants sauvent les parents, c'est plus compliqué pour un enfant parce que ça veut dire que là, il va développer ce qu'on appelle un faux self. C'est-à-dire qu'il va être obligé de nier sa propre personnalité, d'interrompre la construction de sa personnalité, de son identité propre pour jouer le rôle de sauveur de ses parents parce qu'il voit bien qu'il y a une nécessité. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une parentification. Or, un enfant n'a pas à être le parent de ses parents.
Inversement, quand même, pour les enfants, c'est vrai qu'on est là pour les élever et puis être auprès d'eux. Mais jusqu'à quel point on peut devenir étouffant en étant le sauveteur de ses enfants et en vivant quelque part à leur place ?
Oui, alors ça, c'est effectivement une problématique. Alors, sauver ses enfants, il faudrait que les enfants peut-être soient en difficulté pour qu'il y ait cette nécessité-là. Mais bien évidemment aussi, ça peut donner une identité aux parents d'être constamment dans le soin d'un enfant qui serait en difficulté et avoir du coup l'inquiétude qui, inconsciente, bien sûr, qui s'en sorte parce que sinon on est démunis.
Dans ce portrait un peu robot qu'on est en train de brosser du sauveur, est-ce qu'on retrouve certains types de métiers plus particulièrement et est-ce que c'est aussi un peu genré? Est-ce qu'on retrouve plus de femmes?
Alors, je pense que très certainement, les femmes, nous naissons avec le syndrome de l'infirmière qu'on nous inculque, hein, de
vouloir, c'est culturel, oui.
Voilà, aider. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, hein, qui se dévouent pour sauver une femme qui voit en détresse. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment assez partagé.
C'est assez réparti. Et dans les métiers?
Alors, dans les métiers, j'ai interviewé plusieurs métiers de sauveurs, hein, avocate, coach, chirurgien, etc., avec mon idée qui était, dans ces métiers-là, et puis bien sûr des thérapeutes, dans ces métiers-là, est-ce que tous, comme c'était l'hypothèse de départ de mon livre, est-ce que tous savent sauver parce que, et ont eu envie de se faire payer pour ça parce qu'ils savent depuis tout petit?
Oui, c'est un talent.
Et voilà. Et c'était émouvant parce que tous ont eu dans leur enfance cette particularité. Je pense en particulier à un chirurgien, Robin, qui est un copain, qui a une soixantaine d'années et qui me dit non, moi, dans mon enfance, j'ai jamais eu, mes parents vont bien, tout se passe bien. Enfin, et donc, on avance dans l'interview et je m'aperçois que mon hypothèse, pour le coup, tient pas la route. Et puis tout d'un coup, j'allais presque raccrocher de cette interview, et tout d'un coup, il me dit « Bon, j'ai eu un frère aîné qui est décédé, mais voilà, moi j'étais tout petit, j'avais 2 ans, donc, et lui avait juste 1 an de plus que moi, enfin, donc je vois pas bien. » Et là, je lui dis « Mais il est mort de quoi ?» Alors il me dit « Bah, à l'accouchement, ça a été terrible, et donc il a eu des séquelles, et petit à petit, voilà, la vie s'en est allée. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement ?» Donc, c'était il y a une soixantaine d'années, dans un pays étranger. Il me dit « Ma mère n'arrivait pas à coucher, et à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens, donc elle a couché par voie basse, et ça s'est très très mal passé. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui aurait pu sauver votre mère à ce moment-là » Et il me dit « Un chirurgien. » Et là, il se tait, il y a eu un moment de silence où j'en ai encore les frissons.
Ah oui, moi aussi, vous m'avez fait frissonner, je ne sais pas vous derrière qui nous écoutez, mais moi j'ai
et donc
frissonné.
On est restés tous les deux sidérés, il me dit « Mais j'y avais jamais pensé, mais bien sûr que ça aurait sauvé mon frère et ma mère, qui s'en est quasiment jamais remis de cette mort. » Et donc ça a été vraiment intense. À la fin de mon livre, en annexe, j'ai aussi pris des sauveurs de masse. Hein, j'ai pris Jésus, Gandhi, Malala, etc. Abraham Lincoln, Martin Luther King. Et j'ai cherché, bien sûr, dans les biographies, et tous dans leur enfance, ont été confrontés à une parentification et à la découverte de choses douloureuses et difficiles. Et ils se sont engagés au sacrifice de leur vie, eux, pour le coup.
Est-ce que finalement, ce n'est pas intrinsèque ou inhérent à la condition humaine qu'on serait tous des sauveurs potentiels?
Oui, en cas d'urgence, et j'espère bien. Mais des sauveurs compulsifs comme ça, non. Je pense que c'est vraiment... dû à une nécessité tout petit et dans son enfance et qui a forgé ce tempérament.
Alors, quelle différence, du coup, peut-on faire avec un sauveur compulsif, comme vous l'avez nommé, et puis une personne altruiste, finalement, qui est bien dans le don de soi?
Bien, c'est toute une partie de mon livre, hein, qui est « Comment passer de sauveur compulsif à aidant sain ». Donc, le sauveur compulsif, je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui arrive à imposer le sauvetage. En revanche, l'aidant saint, il va proposer. Et donc, l'aidant saint aussi va d'abord prendre soin de lui avant de prendre soin de l'autre.
Vous donnez d'ailleurs l'analogie des avions.
Oui, je raconte effectivement que dans l'avion, l'hôtesse de l'air, au moment où il y a dépressurisation de l'appareil, explique que le masque va tomber et que si on a un enfant, surtout on met d'abord son masque et après on le met à l'enfant. Et je raconte une autre histoire que j'ai vécue et qui a été très émouvante pour moi, où j'étais partie en vacances avec un couple d'amis et qui avait une jeune enfant de 16 ans, une adolescente. Et on était parti le samedi, et le lendemain matin, le dimanche, devait nous rejoindre un ami chirurgien, Paul. Et dans la nuit du samedi, la jeune fille, Marie, a été prise de douleurs épouvantables au ventre. On l'a emmenée aux urgences de l'hôpital, où c'était le week-end. Il y avait un très jeune interne qui était dépassé par les événements. Donc on a réussi à appeler Paul, qui était encore en France, qui a dit « bon, ça peut attendre mon arrivée demain matin ». Et le lendemain matin, il arrive très tôt, avec sa valise et toutes ses affaires à l'hôpital. Il examine Marie et là, il dit « c'est une occlusion intestinale, donc ce n'est pas une appendicite ni une crise de colite
néphritique. » Comme le croyait l'interne. Oui.
Comme le croyait l'interne, c'est une occlusion intestinale, donc il faut l'opérer. Donc moi, je vais voir Paul et je lui dis « t'inquiète pas, je prends tes affaires, ton sac, etc. Je m'occupe de tout pour le mettre à l'hôtel. » Et là, à mon immense étonnement et à celui des parents, il me dit « non. » Moi, j'ai fait la bamboula hier soir, je me suis couchée ce matin très tôt, je n'ai pas déjeuné, je suis fatiguée, j'ai 3 heures devant moi, je pars à l'hôtel, je dors, je mange et je reviens. Pendant 1/100 de seconde, on s'est dit « mais il est fou », et puis le 3/100 de seconde, on s'est dit « waouh, mais bravo quoi ». C'est-à-dire, si je veux aider et voire sauver... Moi, il faut que je sois en forme, quoi, que je sois bien.
Et il savait qu'il ne devait pas l'opérer dans la minute. Hein.
Et il savait qu'il avait, bien sûr, 3 heures devant lui. Et puis, il nous a dit aussi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, est-ce que je vais trouver ? Donc, voilà. Et là, c'est une belle leçon. C'est ça, un aidant sain, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui... Je parle aussi des guérisseurs blessés, c'est-à-dire de tous ces thérapeutes. On n'est pas psychanalyste par hasard, hein, parce qu'on a vu de la lumière, on dit, tiens, je vais rentrer et me faire une petite thérapie. On est psychanalyste parce que soi-même, il y a eu des souffrances, etc. Mais on ne peut être un bon psychanalyste que si on est arrivé au bout de sa thérapie, et donc un guérisseur blessé et qui s'est guéri avant de pouvoir offrir son aide aux autres.
Ça, c'est très important ce que vous soulignez, parce qu'on est quand même dans une ère du coaching. Vous êtes coach aussi vous-même, d'ailleurs, en plus d'être psychanalyste, mais du développement personnel, où il y a beaucoup de formations qui se font très rapidement en un week-end, des gens qui ouvrent des cabinets. Et là, peut-être quand même attention, vigilance par rapport à ça.
Oui, oui, oui. Je parle des sauveurs compulsifs, donc tous ces gens, ces belles personnes qui ont vraiment envie d'aider pour toutes les raisons qu'on vient de dire, mais à l'extrême, il y a les sauveurs pathologiques, hein, c'est-à-dire ces gens qui sont obsédés. Je pense par exemple à un jeune pompier pyromane dans l'Hérault, hein, qui a allumé 5 incendies pour pouvoir sauver ensuite la forêt. Bon, il a écopé de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et ça, c'est des gens terribles. Mais je parle aussi des médecins.
Quel est le ressort d'ailleurs, là ? Parce que j'étais surprise en lisant l'histoire de ce pompier dans votre livre. Vous pouvez nous expliquer ce qui motive ces gens-là ? Ils ont tellement besoin ensuite de pouvoir réparer derrière.
Oui, c'est-à-dire d'être sauveur. Oui. D'être sauveur et d'avoir la médaille du sauvetage, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel qui était prêt à sacrifier sa vie pour sauver, c'est-à-dire être reconnu par ses copains pompiers, mais par les villages autour et par la France entière, presque. Donc, c'est ce ressort-là hein, qui fait ça. Et je parle aussi dans les sauveurs pathologiques, je parle des médecins, et je donne l'exemple, j'ai appelé ça des médecins procustiens, parce que Procuste était un bandit grec qui, une fois qu'il avait dépouillé les gens les allongeaient sur un lit et ils voulaient à tout prix que ça soit à la bonne longueur. Donc, si c'était trop petit, ils tiraient sur les jambes pour que ça soit à la bonne longueur. Et si c'était trop long, ils coupaient les bouts qui dépassaient. Donc, vraiment, quelqu'un, là aussi, de pathologique. Mais un médecin procustien, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais moi, j'en ai rencontré. C'est quelqu'un qui va vous dire, et là, je donne l'exemple d'un gastro-entérologue, et qui va vous dire, voilà, vous faites ci, vous faites ça, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Et si vous dites oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais. C'est moi qui décide. Et,
il prend le pouvoir, en fait.
Il prend le pouvoir.
Il y a une toute puissance.
Voilà, et il y a une toute puissance. Hein, ça s'appelle la fureur de soigner, la passion de soigner, comme dirait Freud. Et ces gens-là aussi sont pathologiques.
Par rapport à votre exemple, qui est vraiment intéressant, là, des médecins, vous dites que le sauveur compulsif peut même se prendre pour le messie. Il y a ce complexe du messie dont vous parlez.
Oui, c'est des gens qui, parce qu'ils savent sauver, au bout d'un moment, décollent du sol, quelquefois. Hein, pas tous, hein, mais parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des nuances. Hein, mais il y a certaines personnes qui sont... une espèce de scanner, hein, et quand elles voient quelqu'un qui va pas bien, tellement habituées à sauver et tellement été dans leur enfance à s'oublier pour être complètement dans l'empathie et la compassion, repèrent toutes les façons dont ils vont pouvoir aider l'autre. Et à partir de là, on a l'impression vraiment de « lève-toi et marche », quoi. On réussit comme un messie à faire que l'autre puisse se tenir debout, ce qui n'était pas le cas au début de la relation.
Ça peut être le cas de certains guérisseurs, mais qui parfois sont quand même agissants.
Oui, mais...
Si on reste bien à sa place.
Voilà, si on est un guérisseur blessé, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a conscience d'avoir été blessé et qui est dans cette humilité-là.
Oui.
Hein, et je pense que c'est primordial, je pense au thérapeute dont je parlais tout à l'heure, ou un psychanalyste, c'est primordial d'avoir l'humilité de se dire « mais si je suis un très bon psychanalyste, c'est parce que j'ai beaucoup souffert et que j'ai beaucoup travaillé sur cette souffrance ». Donc, il n'y a pas de gloire à avoir.
Intéressant. Vous faites aussi bien ce distinguo de l'empathie à la compassion, qu'il y a vraiment une nuance entre les deux.
Oui, parce que compassion, c'est cum patire, c'est cum, ça veut dire avec, c'est souffrir avec. Donc, souffrir avec l'autre, c'est ne plus avoir de recul.
Donc, le sauveur est là-dedans, lui.
Et le sauveur est là-dedans, c'est-à-dire ne plus être dans la bonne distance pour pouvoir sentir la souffrance de l'autre, mais avoir suffisamment de recul pour apporter les bonnes choses et pour vérifier que l'autre demande cette aide.
Au départ, d'ailleurs, dans ce couple sauvé-sauveur, et ce duel, on reviendra dessus, il y a quand même une demande implicite, inconsciente, de la part du sauvé. Ce qui fait que c'est pour ça que le sauveur le harponne, qui peut être inconsciente, qui n'est pas forcément verbalisée.
Oui, alors... Je pense qu'il y a plusieurs types de sauvés aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des sauvés qui vont demander et puis il y a des sauvés qui ne vont pas demander. Et c'est là aussi où il y a une nuance, parce que si le sauvé demande, bon, ben, le sauveur va apporter son aide. Après, s'il l'apporte trop, c'est là où il franchit la ligne rouge. Mais quelquefois, il n'y a pas de demande et le sauveur va y aller parce qu'il repère. En gros, il fait un diagnostic, hein, de ce qui ne va pas et il sait quoi faire pour que ça aille mieux. Et donc, il va y aller. Hein. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure pendant ce dîner où le sauveur sait qu'en cas de licenciement, l'autre va ressentir ça, ça et ça et que lui va pouvoir être un soutien. C'est mon introduction, hein, où je raconte deux jeunes louveteaux qui arrivent en retard à une réunion de scouts. Et ils sont ébouriffés, les habits déchirés, griffés. Et le chef scout leur dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?»« Eh bien, chef, on a aidé une vieille dame à traverser, on a fait une BA. »« Ah ben c'est bien, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là » ?»« Mais c'est qu'elle ne voulait pas. » Donc on voit bien que ces louveteaux, ils ont obligé la vieille dame à traverser pour faire une BA. Donc, je mets ça sous forme d'humour, mais c'est sûr que...
Ça va trop loin.
Là, ça va trop loin.
Le sauvé, on peut l'appeler aussi la victime. Et là, on revient évidemment sur ce fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Alors, on peut mettre d'autres noms en fonction des variantes, mais ça revient toujours à ça. Est-ce que c'est ce couple-là, victime, sauveur ou bourreau, qui se joue?
Alors, je cite le triangle de Karpman, parce qu'on ne peut pas parler des sauveurs sans en parler. Moi, j'ai fait une formation pour en savoir plus. Donc, je cite, mais ce n'est pas mon sujet, c'est-à-dire que dans le triangle de Karpman, comme son nom l'indique, il y a trois personnes. Moi, je parle vraiment que de ce duo-là, où il y a vraiment un lien très fort, et un lien affectif et un lien de codépendance sans persécuteur. Sauf à la fin, où tout d'un coup, les deux peuvent persécuter l'autre pour arriver à sortir de ce lien toxique.
Est-ce qu'il y a un délai pour sortir de ce lien toxique? Autrement dit, combien de temps ce duel infernal dure? Est-ce que ça peut être vraiment parfois sur presque toute une vie?
Mais il y a des couples où c'est toute une vie. Il y a des couples où ils ont démarré la relation sur ce mode-là et où ça continue tout le temps. Donc après, ça dépend de la pathologie ou de la difficulté du sauvé. Et ça dépend des prises de conscience de chacun. Donc, ça peut être très, très long, comme effectivement, il peut y avoir des sauvetages qui sont plus raccourcis.
Vous l'avez dit au début de l'émission, ce duel, ce duo se termine toujours en tragédie, sauf s'il y a de la conscience et qu'à un moment donné, on en sort par le haut en disant, ben voilà, on est rentré dans ce schéma-là et on ne veut pas. Par exemple, vous qui disiez, ben, je me suis guérie, j'imagine que vous avez fait face à des situations où vous étiez, sans prendre forcément votre cas particulier, hein, mais des personnes en tout cas conscientes, et puis qui ont voulu sortir de ce schéma pour toujours.
Oui, c'est cette capacité à avoir conscience qui va aider. Mais je donne un exemple dans mon livre parce que les sauvés, eux aussi, vivent des tragédies. La première des tragédies, c'est que ils sont engloutis par la dette abyssale qu'ils ont contractée, parce que l'autre a sauvé leur vie. Alors, peu ou prou, définitivement, oui, peut-être il y a encore un peu de travail à faire, ce qui est possible. Et donc, de cette tragédie avec cette dette abyssale, eh bien, le sauveur en a conscience, parce qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai.
Oui, donc puis lui, inconsciemment, il attend un retour sur investissement,
oui,
c'est ce
voilà.
que vous dites.
Voilà. Et donc, il a conscience que c'est une dette. Et je donne un exemple par rapport à cette dette où... Un sauveur a aidé une personne, une femme qui avait vraiment vécu, était proche du suicide et qui s'en est sortie. Et puis le sauveur, conscient de ce décalage hein, et de la dette de l'autre, lui a proposé à un moment de l'aider à faire un PowerPoint parce que en se disant ben, on va rétablir les choses. Et une fois que cette aide a été bien menée, le sauveur dit à la personne qui a été sauvée de cette tentative de suicide, ben voilà, on est quitte. Et l'autre dit, mais il n'y a aucune commune mesure entre sauver la vie et sauver un PowerPoint. Mmh. Et on voit là toute la tragédie des deux. C'est-à-dire que c'est fini, quoi. On ne peut plus revenir en arrière. Et moi, j'ai le souvenir, j'en parle dans le livre, d'il y a longtemps, d'avoir aidé très fortement une amie. Mmh. Au moment où elle allait mieux et où moi, je l'ai invitée à l'époque à aller voir une psy, aller voir quelqu'un pour justement me dégager. Et je me souviens qu'elle quitte mon domicile en me disant « Mais c'est incroyable, tu as pris une trop grande place dans ma vie. » Puis elle rectifie, elle dit « Non, une très grande place. » Mais ce « trop », ce lapsus, il était significatif, quoi. Et moi, je savais que c'était fichu, là, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière.
Ouais. C'est ça, en fait. Toujours, on est toujours dans ce drame. Il y a quand même cette volonté, évidemment, d'aider, d'être là pour l'autre. Et en même temps, ça va finir par se retourner contre soi. Donc, cette quête d'amour, finalement, n'aboutira jamais. Quelles sont les blessures de l'enfance? Vous avez parlé de parents alcooliques ou alors des familles dysfonctionnelles d'une manière ou d'une autre. Quelles sont vraiment les blessures sous-jacentes derrière ça? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas avoir été assez aimé, des blessures d'abandon, de rejet? Qu'est-ce qui se joue?
Eh bien, la plus grande des blessures du sauveur, c'est certainement cet abandon d'enfant, c'est-à-dire que c'est l'abandon de sa part d'enfance, de sa part d'innocence, où il a été obligé de, comme je le disais, de devenir le parent de ses parents. Donc, c'est certainement une des plus grandes blessures. Il y a une autre blessure qui est plus invisible. Tout le monde sait ce que c'est qu'un traumatisme d'enfant. Hein. C'est un traumatisme parce qu'on a été rejeté ou abandonné ou malmené. Donc ça, c'est des choses qu'on est tous capables de comprendre, même si on ne l'a pas vécu. Il y a un traumatisme qui est bien plus sournois. C'est le traumatisme du non-advenu, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas eu. Ce qu'on était en droit d'avoir, mais qu'on n'a pas eu. Mais on ne le sait pas, puisqu'on ne l'a pas eu. Mmh. Donc, c'est une espèce de danse affective avec sa maman, qui n'a pas eu lieu, parce que la maman était dépressive, vous ne voulez pas de cet enfant-là, etc. Ça peut être des câlins, ça peut être des petits cadeaux, ça peut être... Voilà. Et toutes ces choses-là, qui ne sont pas advenues, eh bien, ce sont des traumatismes qui sont bien plus difficiles à repérer et qui demandent un gros travail pour vérifier qu'on ne l'a pas eu et qui font que des enfants qui n'ont pas eu vont se démener pour obtenir quelque chose, pour avoir un peu de regard, pour un regard qui dit « tu existes ».
Oui, et pour autant, ils n'ont pas forcément de grands traumas connus. mais dans leur sensibilité, ce non-advenu les a blessés profondément.
Tout à fait, tout à fait. Et a fait que je n'ai pas existé dans le regard de mes parents, même quelquefois quand j'ai essayé de les sauver, c'est peut-être que j'en ai pas fait assez. Donc adulte, je vais en faire 100 fois plus pour exister dans le regard de quelqu'un. Mmh. Et effectivement, dans le regard des sauvés, le sauveur existe, mais il n'est pas aimé.
Donc ça a à voir avec une blessure narcissique. Fatalement,
voilà.
Vous qui avez aussi écrit sur ce sujet-là,
oui.
Dans un livre, c'était votre livre précédent, je crois ?
Non.
Celui d'avant ?
Je sais
pour
plus.
Pour remonter en arrière.
Pour remonter en arrière.
C'était un de vos livres.
Le précédent, c'était Un zèbre sur le divan. C'était sur les hauts potentiels intellectuels. Pourquoi certains hauts potentiels intellectuels sont malheureux ?
Alors justement, vous me tendez une perche. Est-ce qu'il y a un lien entre HPI et puis sauveur ?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je fais un petit focus d'ailleurs sur les hauts potentiels intellectuels. Il y a beaucoup de hauts potentiels intellectuels qui sont sauveurs parce que justement, ils ont cette propension à vouloir aider et surtout, ils ont la capacité à trouver des solutions. Donc, on vient souvent vers eux et au bout d'un moment, ils se disent « Bon, puisque j'ai la solution, je vais y aller. » quoi.
Le mental est un refuge, enfin en tout cas l'esprit.
Oui, c'est un refuge, C'est un endroit qui porte en eux leur propre zone de résilience. Il ne faut pas que ce soit des gros traumatismes, mais les hauts potentiels intellectuels ont une capacité créative, une capacité à partir dans leur bulle quand il y a des petits traumas ou des petites choses qui ne vont pas, qui les protègent et qui font qu'ils vont se ressourcer dans ce lieu-là qui leur est propre et qu'ils portent avec eux.
Et sur la faille narcissique, puisque je venais de là, puis après j'ai sauté sur les HPI.
La faille narcissique, elle est là, c'est-à-dire que le narcissisme, alors que les choses soient claires, le narcissisme c'est positif. On a tous besoin d'avoir du narcissisme, sauf qu'il se construit quand on est petit, c'est-à-dire quand on a des parents qui vous regardent avec plein d'amour, qui sont convaincus que vous êtes la plus belle, la plus grande, la plus forte et qui sont émerveillés, c'est comme ça que ça commence, la bonne construction de soi. C'est,
la bonne mère, la fameuse bonne mère.
La mère suffisamment bonne de Winnicott.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Donc, oui, ça se construit comme ça. En revanche, si on est dans une famille où on est obligé de réparer le narcissisme de ses parents, on comprend bien que soi-même, on va avoir du mal à construire le sien.
Ça, c'est intéressant en tout cas d'en prendre conscience sur ce bon narcissisme. Vous parlez aussi du travail sur la figure maternelle et vous revenez sur les travaux de Bowlby sur l'attachement, sur les figures d'attachement. Est-ce que ce narcissisme, il se construit surtout avec la figure parentale de la mère ou ça peut être l'un ou l'autre des parents ?
C'est la mère pour commencer parce que c'est les mamans qui accouchent de leur bébé et donc il y a ce lien... sensoriel qui est très fort, c'est-à-dire que l'odeur de la mère en particulier et la voix de la mère sont des sens que les enfants ont perçus, bien sûr. Dans le ventre de la maman, ils l'ont entendu parler, ils ont senti les émotions et lorsqu'ils naissent et qu'ils sont nourris, il y a cette odeur qui est très présente. Donc, les sens sont tous éveillés par la maman. Et donc, il y a un attachement particulier à la maman ou substitut maternel qui fait que cet attachement, il est tout de suite très fort. Et il va être d'autant plus fort qu'il va y avoir ce dont je parlais tout à l'heure, de cette danse affective, de ces enfants qui vont faire des lallations, qui vont sourire, et il va y avoir un échange de mots avec des mamans qui vont parler des langages de tout petit. Et c'est comme ça que l'enfant va commencer à se construire.
À quel moment est-ce qu'on peut repérer qu'un attachement peut devenir pathologique, justement ? Que ce besoin de reconnaissance, en fait, est devenu pathologique. Enfin, pathologique, peut-être le mot est un peu fort, problématique.
Bien, c'est problématique, si on reprend le cas des sauveurs, c'est problématique si ils ne peuvent pas vivre sans, dans leur entourage, une personne à sauver. C'est-à-dire que quand ils sont... sans cette drogue, ils sont démunis Et ils n'ont plus personne à qui penser et à qui soutenir. Et ils n'ont plus personne qui va avoir un regard admiratif. Et par conséquent, c'est là où ça devient inquiétant pour eux, parce que ça veut dire que sans ce lien-là, ils ont l'impression d'être vides.
Mmh. Ce qui peut faire aussi le lit de ce fameux syndrome de l'imposteur.
Oui, l'imposture, c'est intéressant parce que ça vient du latin « imponere », qui veut dire « mettre la main sur l'épaule ». Et les imposteurs sont ceux qui ont quelqu'un qui vient entraver leur choix, leur désir, leur souhait. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant qu'eux pour venir les contrecarrer dans leur projet de vie, dans leur souhait de construire quelque chose. Donc, c'est compliqué pour eux. Alors, les sauveurs sont peut-être pas forcément dans cette posture-là, dans cette imposture-là. Ils sont dans la bonne posture, c'est-à-dire, ils ont trouvé le médicament qui leur faisait du bien. Sauf que, à force de se nier, eh bien, ça devient compliqué. Et puis, ils vont devenir, au fil du temps, un peu des caricatures d'eux-mêmes s'ils n'y prennent pas garde. Donc, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que ça peut durer un temps, mais il faut qu'ils arrêtent de souffrir lorsque les sauvés s'en vont et ou lorsque bah, vous avez dû entendre comme moi, mais quelle ingratitude, quoi. J'ai tout fait pour eux. Alors, j'ai tout fait en quatre mots, et puis j' apostrophe étouffé, ouais. C'est-à-dire que je me suis étouffée me suis sacrifiée pour eux, quand même, il pourrait y avoir un minimum de reconnaissance.
Oui, c'est ça, parce que comme c'est de l'amour qui l'attend, et qu'en plus, non seulement c'est pas de l'amour, puisqu'il n'y en aura jamais, mais en plus, c'est un retour de bâton, c'est double peine.
Ah oui, oui, c'est vraiment...
C'est vraiment la main qui mord.
Oui, oui, c'est la main qui mord. Mais c'est important de dire aussi que le sauvé, je parlais des tragédies pour le sauvé, je l'aborde moins puisque mon livre est focalisé sur les sauveurs, mais les sauvés ont, je disais tout à l'heure, la problématique de cette dette. Et il y a une autre problématique qui est terrible, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur dignité devant le sauveur. Ils ont perdu cette dignité. D'ailleurs, je raconte une anecdote sur... Internet, j'ai trouvé un humoriste qui raconte une anecdote très jolie où il dit que quand il était jeune, il habitait dans un immeuble et que sa maman régulièrement lui proposait d'aller porter à manger des petits gâteaux qu'elle faisait ou des petites choses qu'elle faisait en plus, d'aller le porter à des voisins qui étaient vraiment démunis. Et de temps en temps, elle lui disait « Va chez Madame Untel, là, va lui demander du sel ». Alors il disait, mais on en a du sel à la maison. Elle dit, oui, oui, mais moi j'essaye de lui rendre sa dignité. On va lui demander quelque chose. Et il fallait que ce soit quelque chose de petit. Hein. Et donc elle lui proposait d'aller demander du sel pour restaurer la dignité. Et je pense qu'une des tragédies des sauvés, c'est ça. C'est la conviction d'avoir montré une telle déchéance, mais que cette impression, c'est j'ai perdu ma dignité devant quelqu'un. Et ça aussi, c'est difficile. Plus la dette abyssale, ça fait beaucoup de choses, plus d'autres choses dont on parlera peut-être. Ça fait beaucoup pour rétablir une relation d'équilibre.
D'ailleurs, quand on est dans une posture de soignant et de thérapeute et de psy, c'est ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire que l'autre ait les cartes en main et qu'il ne soit pas soumis dans la relation thérapeutique.
Oui, et puis il paye.
Oui.
C'est très important. Moi, j'ai un copain récemment qui avait voulu faire des groupes de parole et je lui avais dit surtout est-ce que tu les fais payer ? Alors ça peut être un euro symbolique, ça peut être mais il m'a dit non moi c'est un don que je leur fais, etc. Je dis mais c'est un don, c'est un cadeau empoisonné, c'est difficile. Et il a été très étonné parce que il y avait de plus en plus d'absents, c'est-à-dire que la première fois il y avait 12 personnes, la deuxième 5 et la troisième ils étaient 2. Les gens ont besoin de grâce à un troc de récupérer cette dignité. C'est Mauss, un anthropologue dont je parle dans le livre, dans la logique du don. qui explique que c'est il y a une obligation de rendre, parce que sinon il n'y a pas un équilibre dans les relations. Il y a un cycle comme ça qui est donner, recevoir, rendre. C'est les trois étapes de cette logique du don. Or là, on donne, l'autre reçoit, mais il ne peut pas rendre.
C'est ça. Dans cette, j'aimerais bien qu'on vous en avait un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'on revienne peut-être dessus. Dans cette blessure narcissique, le sauveur, il va aussi développer ce qu'on appelle dans ces systèmes de défense, les personnalités comme si et le faux self. Peut-être revenir sur ces constructions caractérielles.
Oui, c'est cette nécessité de se dire ce que je suis n'est pas reconnu. Je ne suis pas aimée par mes parents comme je suis, parce que peut-être ils peuvent pas, parce que peut-être c'est difficile, parce que enfin, vraiment, il n'est pas question ici de jeter la pierre à des parents. Il y en a qui font comme ils peuvent, mais malheureusement, c'est pas suffisant.
Et il y en a qui sont aussi véritablement toxiques.
Ah oui.
Je le dis parce que j'ai dit ça à l'inverse dans une interview il y a pas longtemps et on me l'a reproché en disant tout le monde ne fait pas ce qu'il peut en fait. Il y en a qui sont véritablement toxiques.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et merci de le dire parce que j'allais rajouter, je me suis entendue et j'allais rajouter, oui, il y a aussi des parents qui ont une telle souffrance qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se venger sur leurs enfants. Donc ça, c'est terrible aussi. Donc pour en revenir à votre question sur ces personnalités comme si, les enfants se ressentent, c'est tout ça, c'est inconscient, que ce qu'ils sont ne permet pas de recueillir de l'amour, qu'ils ne sont pas aimés tels qu'ils sont. Et donc, ils vont être très créatifs, les enfants, c'est incroyable, la créativité des petits-enfants. Ils vont être très créatifs et vont essayer d'endosser des uniformes, c'est-à-dire une deuxième peau, pour vérifier ce qui va se passer. Par exemple, j'aimerais bien interviewer des humoristes, d'ailleurs, pour savoir si ça a commencé. Il y en a plusieurs qui l'ont dit déjà. Je vois que mes parents sont tristes. Moi, j'ai pas trop envie de rire, mais je vais mettre l'uniforme de l'humoriste et puis faire des gags, imiter des gens, raconter des blagues. Et là, je vois que mes parents rient et tout d'un coup, ils me regardent. Alors, j'essaye de prendre ça pour de l'amour, mais ils me regardent avec gratitude.
Oui.
Bon, ben je le prends. Et par conséquent, je vais me transformer en humoriste. Je vais monter sur la table, faire des claquettes, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, voilà. Je vois que ma mère déteste faire à manger, ben je vais très tôt apprendre à faire la cuisine, alors que j'en ai pas du tout envie, mais je vais le faire parce que je sais que... Donc j'endosse mon costume de cuisinière, et ainsi de suite.
Donc là, vous dites qu'il n'y a pas d'affect, il y a un manque de présence à soi, parce qu'en fait, je vais être soumis au désir de l'autre, dans un regard de ce dont les autres auraient besoin, et finalement, je ne sais pas qui je suis.
Voilà. C'est-à-dire que je suis obligée d'être un autre moi-même, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir survivre dans ce monde où je ne suis pas du tout considérée.
Ce qui donne ce que vous avez dit tout à l'heure, les enfants sauveurs, vous les avez cités, le nourrisson savant, l'enfant doudou, béquille, paratonnerre, l'enfant symptôme, l'enfant thérapeute, l'enfant soleil. On pourrait faire une litanie finalement de profils comme ça.
Oui, c'est des enfants, je le répète, qui sont incroyablement créatifs et qui ont réussi à trouver des solutions pour, à défaut d'être aimés, être intéressants.
Et c'est là où on revient à la tragédie, parce qu'en fait, ils ne sont pas complètement eux-mêmes. Alors, ça pose cette question, qu'est-ce qu'être soi ?
Eh bien, être soi, c'est avoir été élevé dans un climat affectif sain, où des parents vont montrer à quel point ils aiment leur enfant, et surtout qu'ils les aiment quel que soit leur caractère, quel que soit leur tempérament, quel que soit leur projet, quelle que soit leur capacité scolaire, quels que soient les amis qu'ils vont avoir, quels que soient les loisirs qu'ils voudront partager. C'est des parents qui vont quand même cadrer, parce que s'il n'y a pas de cadre, ça va être compliqué. Donc, ils vont cadrer l'enfant, lui apprendre le respect des autres, lui apprendre la loi, etc. Mais dans ce cadre-là, essayer de leur laisser le plus de liberté possible.
Ça existe ?
Oui.
Parfois, je me pose la question.
J'ai été hésitante.
Oui, j'ai vu.
Oui, parce que tout parent est un être humain. Mmh. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a des chagrins, qui a des joies, qui a des peines.
On aurait parlé de névrose une époque.
Voilà, qui a soi-même eu des parents qui ont été plus ou moins... Voilà. Donc, après, il y a des familles, il y a des parents qui sont meilleurs parents que d'autres. Et j'aime bien Winnicott, on en parlait tout à l'heure, qui parle de maman. Alors aujourd'hui, on peut aussi parler de papa et de parents, mais lui parle d'une mère suffisamment bonne. Et c'est excellent, parce que ça veut dire... Il n'a pas dit une mère parfaite, il dit elle est suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est suffisant pour que l'enfant soit arrosé régulièrement et puisse pousser dans un climat le plus favorable possible.
Et pourtant, on retrouve des profils de sauveurs avec des mères suffisamment bonnes, comme ça en apparence. Mais vous dites, parfois, c'est aussi l'exemple familial qui a imprégné ce profil de sauveur.
Oui, parce qu'il y a des parents qui sont, comme nous le disions tout à l'heure, il y a des parents qui sont complètement tournés vers autrui, quelquefois au détriment de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui racontent que ben, on lui a dit « t'aimes beaucoup ce jouet, mais là tu vas le donner, parce que l'autre il n'en a pas ». Donc des enfants qui se retrouvent à devoir se priver, ou des parents qui, tous les dimanches, ont passé la journée entière à aller dans un centre pour SDF ou aller dans une association de bénévoles.
Ils sont un peu sacrifiés, quoi.
Voilà, donc des parents qui se sacrifient pour les autres et des enfants qui vont avoir du mal parce que ce que les parents font, c'est beau. C'est quand même
la
générosité absolue. Donc, comment critiquer après ça ? Enfin, c'est difficile. Et donc, souvent, ils vont enchaîner et faire la même chose parce que ça va leur permettre d'avoir aussi une identité, comme les parents ont eu cette identité. Donc, c'est un peu compliqué.
Ces sauveurs, de par cette construction de comme-si et faux-self, sont plus à même d'être la proie de pervers narcissiques ou d'avoir des effondrements psychologiques type dépression, burn-out ?
Oui. Je parle dans mon livre des pervers narcissiques, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mettre les pervers échec et mat » qui...
Excellent titre, d'ailleurs.
qui, malheureusement, continue à très bien se vendre. Mm. Je dis malheureusement parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de victimes. Et donc, les sauveurs sont la proie idéale des pervers narcissiques parce que les sauveurs sont souvent des belles personnes rayonnantes qui ont le goût du bonheur qui veulent sauver. Et donc, lorsque le pervers met le grappin dessus, eh bien, le sauveur va percevoir la faille du pervers et va essayer de le sauver et va essayer, contre sa propre vie psychique, de maintenir le lien et d'y arriver. Ça me fait penser, quand je parle de ce lien, ça me fait penser qu'au moment où les sauveurs sont en train de vouloir guérir, font ce travail de guérison, il y a un énorme conflit de loyauté entre eux. C'est-à-dire qu'ils se disent « mais je sais faire ça ». Et je vais y renoncer. Donc c'est là où ils doivent apprendre qu'ils ne vont pas renoncer à aider les autres. Il n'est pas question pour se guérir de devenir un épouvantable ermite qui ne regarde plus personne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, de passer de sauveur compulsif à aidant saint. C'est-à-dire, je sais faire, ben je vais attendre qu'on me demande ou je vais proposer, mais pas imposer.
Oui, c'est toute la notion du curseur en fait, chez lui qui doit être vue.
Oui, voilà.
Parce qu'il va se dire, je ne dois pas faire, donc est-ce que je claque la porte ou je deviens froid ? Il ne sait plus faire. Autant il savait sauver, mais là, il ne sait plus comment se comporter.
Oui, et je raconte une histoire qui m'est arrivée, que je mets dans la bouche de quelqu'un d'autre, mais qui m'est arrivée il y a plusieurs années, au moment où j'étais justement en train de renoncer à cette personnalité, à cette fausse personnalité, où j'étais à un dîner chez des amis et tout d'un coup, il y a une femme en face de moi, je vais l'appeler Béatrice, qui raconte qu'elle est triste, qu'elle ne va pas bien. Enfin, Et à ce moment-là, je lui dis, mais moi, il y a longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué » d'Alice Miller.
Oui.
Et ça m'a vraiment, vraiment aidée. Alors, je ne lui dis pas le livre. Hein. Je lui dis, moi, j'ai lu un livre qui m'a vraiment aidée. Et je fais exprès, parce que j'étais dans la phase où j'expérimentais ma guérison.
Oui.
Et donc, je dis, j'ai lu un livre qui était excellent. Elle m'a dit, ah bon. Et puis, on n'en parle pas. Et moi, je me dis, allez, tu es en train de devenir une ex-sauveuse, pousse l'expérience jusqu'au bout. Donc, à la fin du repas, je lui dis, tu sais, je mets à ta disposition les références du livre. Elle me dit, oui, j'ai bien entendu. Et là, je me dis, il y avait du monde autour, peut-être ça l'a... Donc, je pousse le bouchon jusqu'au bout et l'expérience jusqu'au bout. On sort, je me retrouve toute seule avec elle sur le trottoir et je lui dis, tu sais, au fait, le livre, hein, quand tu veux. Elle me dit, oui, et elle s'en va. Et là, je réalise qu'il y avait peut-être 5 ans auparavant, mais je lui aurais donné le nom du livre, j'aurais même dit, je te l'achète, je te l'envoie. Ouais. Enfin, je me serais dit, mais elle ne peut pas passer à côté de ouais, ce médicament. C'est
quoi.
Pas possible, parce que moi, ça m'a vraiment... J'ai pleuré à chaque page, donc ça va l'aider. Et là, bah, elle ne voulait pas.
Ouais.
Donc, c'est une sacrée expérience.
C'est aussi reconnaître que l'autre est un autre je à la fois, et en même temps, l'autre n'est pas moi. Et donc,
voilà.
Je respecte son propre chemin, et peut-être c'est pas le bon moment pour cette personne.
Oui, et puis il y a des gens, il y a aussi des victimes compulsives. Hein. Il y a des gens pour qui c'est une identité d'être victime, hein, et d'être sauvé, et de se proposer à être sauvé, mais de ne pas vouloir guérir. Hein. Ça existe aussi.
Oui, bien sûr.
Et c'est à respecter.
Et c'est à respecter. Alors, dans ce chemin vers soi que vous avez fait, à quel moment d'ailleurs, vous, dans votre histoire, parce que vous étiez déjà psy, vous vous êtes dit, allez, il faut que je traite ce sujet. Parce qu'il y a eu des événements particuliers ou c'est parce que, voilà...
Oui, je l'ai traité avant d'être psy.
D'accord.
Ah, oui, je l'ai traité avant d'être psy, parce qu'on ne peut pas être psychanalyste sans avoir fait soi-même une psychanalyse. Donc... Je l'ai traité quand j'ai découvert que c'était une souffrance, c'est-à-dire que quand tout d'un coup j'étais agressée par le sauvé qui en avait marre de ma bienveillance et de mon aide, j'ai été aussi triste quand je me suis rendu compte qu'on m'en renvoyait pas du tout d'amour, que je m'évertuais à me sacrifier pour un objectif qui n'était jamais atteint. Donc, c'était une grosse souffrance. Et puis, bien sûr, dans mon travail personnel en psychanalyse, j'ai découvert que j'avais voulu aider une mère dépressive, j'avais voulu aider un père qui était aussi pas très... solide, qui était solide en apparence, mais pas aussi solide que ça. Enfin, voilà. Mmh. Donc, en découvrant tout ça et en formant un puzzle, en mettant tous les petits morceaux de puzzle de prise de conscience, tout d'un coup, j'ai découvert que non, j'avais plus du tout envie de faire ça, quoi.
Oui.
Que c'était fini, que ça... j'avais envie d'être moi-même et non plus d'avoir un uniforme de super-héroïne.
Comment vous avez fait ? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette posture ?
En travaillant sur tous ces petits bouts-là, sur pourquoi je vais souffrir dans un lien où je donne et j'ai pas de retour, quelle est l'origine de cette propension à vouloir sauver, comment être moi-même sans cette nécessité-là d'être reconnue. Réfléchir sur son enfance, réfléchir sur ses comportements avec les uns, avec les autres, vivre par exemple un couple où en étant sauveuse, un jour je dis je vais pas bien, là j'aimerais bien, et l'autre me répond moi non plus et s'en va, et là je me dis là il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. J'ai pas réussi à faire équipe avec l'autre parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est irréversible.
Oui,
la position de sauveur,
c'est déséquilibré.
C'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Mmh. Les dés sont jetés, la règle du jeu est posée et c'est terminé.
On ne peut pas sauver l'autre en fait, de lui-même. C'est aussi une leçon qu'on apprend.
Oui, on peut sauver. Hein, ce que je disais tout à l'heure, la première des tragédies, c'est que le sauveur s'est sauvé. On sauve, c'est-à-dire que pendant un petit bout de temps, vraiment, on est une super maman. Une super woman qui soutient, qui sait ce qu'il faut faire. Sauf que si au bout du compte, l'autre, une fois que la grosse période de difficulté est passée, si l'autre ne se prend pas en main et n'essaye pas de continuer par lui-même pour se sauver, ben, ça aura été un feu de paille, quoi. Ça aura été un moment de sauvetage, mais après, il y a un boulot personnel qu'il faut entamer, bien sûr.
Je pense à ces situations, j'en ai parlé avec le romancier Alexandre Jardin dans cette émission, puisque son dernier livre est sur la disparition de son frère il y a 30 ans, qui s'appelle d'ailleurs, son livre éponyme qui s'appelle Frère, où il dit, mais est-ce qu'on fait toujours ce qu'on aurait dû faire pour sauver l'autre ? Et voilà, et c'est vrai que là, on a discuté de ça avec lui, on est aussi face à notre impuissance et toute puissance d'humain. Hein, qu'à un moment donné, si l'autre ne souhaite pas, comme vous disiez, être sauvé, je ne parle pas forcément de son cas, hein, mais je prends cette conversation pour en faire un cas plus général, si l'autre est dans une telle détresse que de toute façon, il ne peut pas, parce qu'il a aussi certains empêchements, il y a peut-être une forme de respect à avoir par rapport à ça.
Tout à fait.
De reconnaissance,
oui,
je dirais.
Oui, et d'ailleurs, dans mon chapitre sur comment guérir, hein, je commence par raconter l'histoire d'une femme, Jeanne, dès qu'elle a été mariée, alors qu'elle avait un tout petit appartement et un fils unique.
Ah oui. Elle était âgée en plus, elle avait 87 ans.
Oui, et donc quand elle était jeune, elle a commencé à recueillir l'oncle, la tante, le frère, la sœur, etc. Donc après, ils ont réussi à acheter une maison et là, elle a recueilli. Enfin, et toute sa vie, elle s'est sacrifiée pour une tante veuve, pour un père Alzheimer, pour un cousin handicapé, enfin... Voilà, et c'est son fils d'ailleurs hein, qui, à l'âge adulte, quand il a su que j'allais écrire ce livre, me raconte ça. Et qu'à un moment, ben, malheureusement, son mari décède, enfin, il n'y a plus personne autour d'elle, elle se retrouve toute seule dans cette maison. Et là, le fils, Hervé, arrive et il se dit, lui, il habite à Paris, elle habite dans le sud, je vais l'emmener en vacances avec moi. Et donc, il l'appelle et lui dit, maman, allez, je t'emmène, t'as jamais eu de vacances. Et elle dit, non, je peux pas. J'ai des chats à nourrir. Oui. Et là, il découvre que dès qu'elle s'est retrouvée toute seule, elle est allée à la grille du jardin, elle a mis une gamelle à manger pour des chats. Puis petit à petit, elle a rentré la gamelle jusqu'à la maison, elle s'est retrouvée avec 5 chats. Et maintenant, elle a décrété qu'elle était la seule à pouvoir s'occuper d'eux correctement. Et donc, elle ne pouvait plus partir en vacances, elle ne pouvait plus rien faire. Et là aussi, il faut respecter les sauveurs qui ne veulent pas changer et devenir autre chose que des sauveurs. Donc, elle, c'était sa personnalité et point. Voilà, il n'était pas question. Donc, comment guérir ? Oui, à condition de vouloir guérir. Et ceux qui ne veulent pas guérir, ben justement, il faut les respecter.
Pour guérir, quand on en a le souhait, la voie thérapeutique reste pour vous la meilleure ou est-ce c'est un travail qu'on pourrait faire seul ?
Non, je pense que bah, il faut lire mon livre, hein, peut-être ça va guérir.
Oui, bien sûr, il y a des prises de conscience très fortes.
Non, je plaisante quand même. Ça met sur la voie.
Mais
oui, je pense qu'il faut.
Plus que ça même. Oui.
Moi, je n'ai pas pu parler d'autre chose que des prises de conscience avec un thérapeute et de préférence un psychanalyste. Je pense qu'il faut revenir à l'origine.
Oui, c'est important.
Si on ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là, on ne va pas pouvoir changer, on ne va même pas pouvoir avoir envie de changer, c'est trop compliqué.
Oui, vous dites, vous avez ce mot très fort, hein, et on arrive à la fin de cette émission, de mécanisme aliénant. Voilà, c'est ça qui peut nous mettre en souffrance.
Oui, c'est-à-dire tout d'un coup se rendre compte que se poser la question dans tous ces duos, à un moment se dire, mais et moi ? Qui va me sauver ? Qui va prendre soin de moi ? Qui va m'aimer pour ce que je suis ? Qui va m'apporter du baume ? Qui va m'apporter quelque chose de chaleureux ? Et à partir de là, c'est l'effondrement du sauveur. Hein. C'est, je ne peux plus être uniforme là, m'étouffe.
Quand on passe par là, il y a forcément une phase de reconstruction. Ensuite, on s'auto-sauve, c'est-à-dire qu'on arrive à s'apporter ce qu'on pensait retirer des autres. On arrive à se l'offrir à soi.
Oui, on va s'aimer soi-même. Voilà. Et puis, partant de là, il y a d'autres qui vont nous aimer aussi pour nous-mêmes. Et là, on va en profiter parce que quand les gens nous donnent de la gratitude, de la reconnaissance, alors qu'on sait que c'est pas pour nous, c'est pour ce qu'on a fait, il y a quand même une espèce d'amertume quand on est seul face à soi-même.
Oui.
De se dire, ben, j'ai fait énormément pour obtenir quelque chose qui finalement ne me convient pas et ne me nourrit pas et ne me fait pas du bien.
Oui, c'est douloureux aussi. Vous avez cette phrase de ce cher Bernard Werber que j'ai reçu plusieurs fois dans cette émission, issue de son livre « L'Empire des anges » et peut-être en conclusion j'avais envie de la lire. « On peut beaucoup pardonner à autrui, sauf de vous avoir aidé. » C'est quand même fort. N'aidez que les gens qui sont à même de le supporter, sans vous le reprocher par la suite. Et il finit en disant « Et ils ne sont pas nombreux. »
Oui.
C'est juste pour vous, ça.
C'est exactement ça. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire la tragédie de ces sauveurs, c'est ça. C'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'accueillir ce sauvetage avec toute la reconnaissance et même de l'amour. C'est quasi impossible.
Mmh. Hélène Vecchiali, merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de rajouter à la fin ou vous pensez qu'on a fait quand même bien le tour de la question ?
Oui, je pense que vraiment, on a bien fait le tour de la question en parlant des tragédies des sauveurs et des tragédies des sauvés et de la guérison pour ceux qu'ils veulent uniquement.
Très bien, merci infiniment. En tout cas, ça nous a beaucoup éclairé cette émission. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui sort tout juste, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé, avec ce très beau visuel où on voit un sauvetage un peu en montagne au-dessus d'une roche comme ça, qui vient de paraître aux éditions Marabout. Merci beaucoup.
Merci Anne.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.